sans tarder, je passe la parole donc au miroir sur la neutralité du dans le procès constitutionnel. Mathieu Dizan.
Oui, merci. En principe, le miroir doit réfléchir, donc je vais essayer de faire honneur à cela. En tout cas, bon, chers collègues, chers amis, mesdames et messieurs, à mon tour d'adresser mes remerciements les plus chaleureux à François Brunet et à tous celles et tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce colloque qui a d'ailleurs très bien débuté dès hier soir. Je suis moi aussi un peu embarrassé car la neutralité n'est pas en tant que telle une notion habituelle dans le domaine du contentieux constitutionnel, et je dis ça sans provocation. Bien sûr, on y connaît les notions voisines d'objectivité et d'impartialité qui ont été brillamment et finement présentées à l'instant par Alexandre, mais précisément, s'interroger sur la neutralité dans le procès constitutionnel me conduit à prendre délibérément des distances avec la notion voisine d'impartialité. Bien sûr, dans son sens moral, et cela vient d'être souligné, la neutralité renvoie directement à l'attitude d'impartialité du juge, qui, pour reprendre la définition classique du vocabulaire juridique, examine avec la même attention les éléments favorables et défavorables à chacune des parties. Sur ce sujet, chacun sait que depuis la QPC et sous l'influence de la jurisprudence européenne, les membres du Conseil constitutionnel peuvent être amenés à se déporter s'ils estiment que leur impartialité est en cause, ce qui procède dans les faits d'un examen par les services de la participation de l'intéressé à l'élaboration de la loi contestée. Les parties à la procédure peuvent également formuler une demande de récusation, ce qu'elles font d'ailleurs sans toujours s'interroger efficacement sur les stratégies d'utilisation de cette faculté et son bénéfice prétendu. On peut aussi rappeler, pour l'écarter également de notre étude, le régime des incompatibilités applicables aux membres du Conseil constitutionnel, lequel a été récemment rendu plus sévère par le législateur organique, qui l'a calqué, grosso modo, sur celui applicable aux magistrats judiciaires. On n'évoquera pas plus la question de savoir si les modalités de composition du Conseil constitutionnel répondent aux exigences d'impartialité objective, là où, Monsieur le Président, on a pu considérer parfois qu'il y avait une incompatibilité absolue entre l'article 56 de la Constitution et une authentique justice constitutionnelle. Bien sûr, pour ces raisons et d'autres encore, l'impartialité peut être considérée comme une mise en forme juridique de la neutralité. Mais en définitive, c'est aussi le cas, par exemple, de la collégialité, comme toute autre notion qui favorise d'une façon ou d'une autre, qui garantit le bien jugé ou la bonne administration de la justice. Si donc, par hypothèse, la notion de neutralité présente une utilité, voire une plus-value conceptuelle, c'est qu'elle permet de désigner autre chose qu'il serait inapproprié de prédéfinir, puisque c'est ce à quoi œuvrent toutes les communications de ces deux journées. Et en plus d'avoir ainsi le mérite de nous réunir aujourd'hui, ce sujet est en définitive une invitation à faire, si j'ose dire, un pas de côté par rapport à des approches plus classiques, à essayer de récolter les figures de la neutralité telles qu'elles se présentent et les situations où elles pourraient sembler être prises en défaut. Alors, de quoi la neutralité pourrait-elle être le nom dans le procès constitutionnel ? En cherchant les contours de la notion de neutralité, selon une méthode inductive qui s'enracine dans la pratique des juges et de l'organisation du procès, on croit pouvoir, dans un premier temps, cibler tout particulièrement une zone de tension ou peut-être identifier un risque que la neutralité soit mise en cause dans l'accès au Conseil constitutionnel. Et dans un second temps, l'incarnation très relative de la neutralité parmi les acteurs du procès devant le Conseil constitutionnel pourrait, à mes yeux, livrer une clé de compréhension des spécificités de ce progrès. À la neutralité interrogée succède la neutralité incarnée, en quelque sorte. Alors, l'interrogation d'abord, elle concerne précisément la neutralité du juge de renvoi des QPC dans un cas particulier, celui dans lequel la question de constitutionnalité porte sur sa propre jurisprudence. La question de la neutralité se pose dans la mesure où Conseil d'État et Cour de cassation bénéficient ici d'un double monopole. D'une part, ils sont seuls à habiliter à fixer, selon standards retenus en jurisprudence, l'interprétation jurisprudentielle constante en tant qu'objet de contrôle de constitutionnalité susceptible d'être exercé en QPC. Et d'autre part, nous le savons tous, Ils disposent du monopole de renvoi des QPC, ils en sont les portiers obligés et ultimes, ce qui est d'ailleurs une différence notable avec, par exemple, le système italien. Il revient donc, en dernière analyse, aux juridictions suprêmes de transmettre ou pas l'interprétation qu'elles ont pu elles-mêmes énoncer. Dès lors, on est en droit de poser la question de l'objectivité de cette intervention et celle de la neutralité de l'examen qui est exercé. Conseil d'État et Cour de cassation sont-ils jugés partis lorsqu'ils se prononcent sur la question de la constitutionnalité de leur propre jurisprudence ? En première lecture, la réponse est claire, elle est négative. Au sens strict, point d'impartialité. On sait en effet que dans la suite des prises de position du Conseil d'État et de la Cour de cassation, la Cour européenne des droits de l'homme en a jugé ainsi dans l'arrêt Renard contre France du 25 août 2015. L'examen par la Cour de cassation d'une QPC portant sur sa propre jurisprudence n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité. C'est une position salutaire, mais à mes yeux, elle ne résout pas toutes les facettes du problème soulevé par ce que j'appellerais la fusion du juge de renvoi avec le juge interprète. Au prisme de la neutralité, il est permis de ne pas se satisfaire de cet état du droit et de l'état des pratiques, pour plusieurs raisons, qui sont autant d'indices, à défaut de critères, susceptibles de mettre en cause la neutralité du juge de renvoi dans cette configuration singulière. D'une part, les juges de renvoi ont strictement délimité le champ du contrôle de leur jurisprudence. Pour aller ici à l'essentiel, il n'est pas possible, en l'état actuel, de critiquer la seule jurisprudence, c'est-à-dire la règle jurisprudentielle nue ou pure, si l'on préfère, non rattachable à une disposition législative, ou si l'on préfère, la jurisprudence purement prétorienne. Pas possible non plus de critiquer les décisions de justice en tant que normes juridictionnelles, ceci au nom de la protection de l'office du juge consistant à appliquer la loi. Pas plus qu'il n'est permis de critiquer l'interprétation combinée des dispositions législatives, la contestation d'une règle jurisprudentielle énoncée notamment au visa des textes contestés est tout bonnement considérée comme irrecevable. Seule une relation d'exclusivité donne prise à la QPC. Bref, la fenêtre de tir est très étroite. Trop, sans doute, pour qu'on puisse couper court à toute suspicion de défaut de neutralité dans la définition de ce champ de contrôle. D'autre part, il est frappant d'observer des différences d'approche entre les chambres de la Cour de cassation s'agissant de l'examen de leur jurisprudence respective à l'occasion des QPC. Elles renvoient plus ou moins volontiers de telles questions, souvent moins que plus, sans que les modalités d'examen soient réellement harmonisées, au point de faire apparaître, ici plus qu'en toute autre hypothèse, la phase d'examen du renvoi comme une véritable boîte noire. Au demeurant, il semble que les chambres ne souhaitent pas du tout harmoniser leurs pratiques sur ce point, qui a déjà été mis à l'ordre du jour de réunions de groupe de travail sur les divergences de jurisprudence. Par conséquent, on peut s'interroger, est-il satisfaisant de considérer, comme c'est le cas aujourd'hui, que le traitement d'une telle question relève de la politique jurisprudentielle de chaque chambre, chacune étant, au bout du compte, évaluatrice de la qualité juridique ultime de sa jurisprudence. On pourrait n'y voir que l'expression d'un fantasme doctrinal, s'il n'y avait pas une troisième observation à formuler. Lorsqu'elle est possible, l'analyse des non-lieux à renvoi de la jurisprudence nourrit très facilement l'hypothèse d'une rétention de ce contrôle, ou plus exactement de cet anti-contrôle, par les cours suprêmes, notamment la Cour de cassation. Il arrive que la Cour examine expressément la conformité de la jurisprudence critiquée à la Constitution, bien sûr. La Chambre sociale est à cet égard exemplaire, et dans une moindre mesure, en raison d'une pratique plus aléatoire, la troisième chambre civile. Mais le plus souvent, et sans qu'il soit possible d'établir objectivement les circonstances qui le justifieraient, la Cour estime que la question n'est pas sérieuse, sans même se prononcer expressément sur sa jurisprudence, c'est-à-dire sans faire état que sa jurisprudence était contestée. Et à quelques exceptions près, c'est la règle pour la chambre criminelle, pour la chambre commerciale et pour les deux premières chambres civiles. Dans ces conditions, la question de la neutralité se pose inévitablement. Est-il satisfaisant que l'auteur de l'interprétation jurisprudentielle en soit le contrôleur habituel ? Peut-on renier les enseignements kantiens et attendre du juge de renvoi qu'il soit injuste envers le juge interprète ? Si la neutralité devait être ici prise au sérieux, elle serait tout entière dirigée contre la propension naturelle de toute institution, même les plus éminentes, à protéger sa production normative d'un désaveu extérieur. Et c'est précisément cette tendance qui explique une quatrième et dernière observation. Lors du contrôle par les deux cours suprêmes de leur jurisprudence, celles-ci n'hésitent pas à opérer un revirement de jurisprudence ou toute technique interprétative de mise en conformité avec la jurisprudence constitutionnelle. La question de la neutralité est alors accrue lorsque, tout particulièrement, cette interprétation conforme de la loi contestée se fait en l'absence de toute interprétation précédente. En effet, il semble admis qu'une QPC puisse permettre à la Cour de cassation, au stade de l'examen du renvoi, puisse autoriser la Cour de cassation à faire évoluer sa propre jurisprudence à droit constitutionnel constant, si j'ose dire. Elle peut ainsi, à l'occasion de l'examen d'une QPC, adapter l'interprétation qu'elle avait de la loi afin que cette nouvelle interprétation soit conforme aux exigences constitutionnelles et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Cette lecture, qualifiée de dynamique, repose notamment sur la doctrine développée par le conseiller Nicolas Mazio. La neutralité apparaît alors comme un élément de réponse à des questions plus fondamentales. Le juge peut-il créer de l'interprétation en sa qualité de juge de renvoi ? Le juge de renvoi, déjà maître, on l'a dit, de l'interprétation digne d'être contestée en QPC, est-il libre créateur du droit ? On peut au moins douter de ce que le filtrage des QPC ait vocation à développer de la jurisprudence, ce qui procède d'un environnement technique et chronologique différent, au risque aussi de dénaturer la procédure QPC et d'une certaine façon de prendre en traître le justiciable. Mais d'un autre côté, jusqu'où peut-on reprocher aux juges de vouloir rendre leur jurisprudence conforme à la Constitution ? En définitive, la neutralité mérite, selon moi, d'être un élément de définition de cet équilibre, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. Si elle devait être intégrée comme un paramètre d'action du juge de renvoi, sans même parler de démarche éthique, l'examen d'une QPC relative à sa jurisprudence ne pourrait qu'être réservé à des considérations de recevabilité, dénuées de toute tentative de fausser l'équilibre juridique de la question posée. Alors, il sera permis peut-être de dire que la neutralité s'oppose à toute démarche consistant pour le juge du renvoi, à organiser l'immunité de sa propre jurisprudence ou à se satisfaire d'un autocontrôle de constitutionnalité. Dans le temps qui me reste, je voudrais évoquer très brièvement un second point, les figures indécises de la neutralité dans le procès devant le Conseil constitutionnel. Si l'on s'en tient au sens technique donné à la neutralité du juge, on devrait considérer que le juge constitutionnel ne peut être neutre, compte tenu de la nature même du contentieux de constitutionnalité. D'une part, le Conseil constitutionnel n'est pas tenu de statuer dans les limites des conclusions des parties. Le juge constitutionnel n'est pas un juge en retrait, il dispose au contraire d'un large pouvoir d'office. D'autre part, la procédure constitutionnelle contentieuse revêt, elle aussi, un caractère principalement inquisitorial. C'est un trait dominant d'ailleurs pour l'ensemble des cours constitutionnels qui rejoint les qualités de juge du droit et non du fait, du moins dans l'exercice du contrôle de constitutionnalité, qui correspond aussi, dans la plupart des cas, au rôle actif du juge constitutionnel dans l'exercice de sa compétence exclusive de contrôle de constitutionnalité des actes normatifs, et qui se concrétise par des exigences d'investigation poussées, une sorte d'inquisitoire élargi. Il n'est pourtant pas si aventureux de se mettre à la recherche d'un corps neutre, si j'ose dire, dans le procès devant le Conseil constitutionnel, peut-être en s'intéressant à l'ingénierie évoquée par Arnaud il y a quelques minutes. Le premier prétendant pourrait être le conseiller rapporteur, du moins dans son rôle d'instructeur. Il collecte les éléments utiles, procède aux auditions, à toute mesure nécessaire. Et il relève au moins d'un usage bien établi qu'il exerce son office en tenant compte des éléments favorables et des éléments défavorables aux argumentaires développés. Il n'en reste pas moins que la finalité de son office est de proposer un projet de décision et donc inévitablement de prendre parti. La neutralité trouve ici sa limite. Seul un commissaire de la Constitution, une sorte de rapporteur public à la sauce constitutionnelle, pourrait présenter des critères supérieurs de neutralité, sous toutes les réserves d'ailleurs émises à l'instant par Alexandre. Mais il n'y en a pas. Du moins, pas formellement. Car il est tout à fait permis de se demander si le secrétaire général du Conseil constitutionnel n'a pas exercé dans les faits, au moins jusqu'à une période récente, un tel office dans la distribution interne des rôles. Ici, il ne serait pas inutile d'envisager comme telle la définition formelle de ses fonctions. Qu'on l'approuve ou qu'on le déplore, le secrétaire général du Conseil constitutionnel a toujours exercé une fonction spécifique dans l'élaboration, la diffusion et la préservation de la jurisprudence constitutionnelle. Et l'hypothèse de l'assimilation de son rôle avec celui du commissaire du gouvernement dans le procès administratif a été soufflée par le président Brébant, s'inspirant lui-même, sauf erreur de ma part, de la proposition de Léo Hamon, visant à instituer, je cite, « un représentant du droit » à la fois pour mieux éclairer sur le sens de la décision et pour ouvrir un certain espace de dialogue qui permettrait le progrès ultérieur de la jurisprudence. Et de fait, c'est ce qu'il a souvent été. Particulièrement pour préserver la cohérence de la jurisprudence constitutionnelle et s'inscrire en ce sens dans une démarche de participation neutre, tout auréolée sans doute de cette neutralité, plus ou moins effective et habilement entretenue. Le doyen Vedel pouvait ainsi écrire à propos de Bruno Genevoix, mais c'était Bruno Genevoix, que le secrétaire général, et je cite, « non seulement la mémoire du Conseil, mais dans une certaine mesure, sa conscience ». En définitive, si l'on fait le tour des opérateurs, pour reprendre ton terme, François, tout à l'heure, la participation neutre au procès constitutionnel ne trouve-t-elle pas à s'identifier à travers les interventions de tiers, les interventions des tiers ? En particulier, l'intervention des tiers porteurs d'intérêt collectif, sorte d'élément fragmentaire de l'intérêt général, qui, me semble-t-il, est en adéquation avec le caractère objectif du contentieux constitutionnel. Les véritables auxiliaires de la justice constitutionnelle ne sont-ils pas là, dans ces sujets sociaux, pour reprendre une terminologie de la doctrine italienne, parfaits défenseurs des intérêts diffus, de dimension supra-individuelle, mais aussi destinataires principaux de la décision et surtout de la norme attaquée. Les législations et les pratiques des cours constitutionnelles qui se sont engagés dans cette voie, ont créé les conditions favorables au développement d'une parole neutre avec ces interventions. Une parole neutre et partant, une véritable incarnation du contentieux constitutionnel. En France, cette démarche a fait des progrès. Le fait d'avoir admis la possibilité pour des tiers à la procédure QPC de faire valoir leur intérêt spécial à intervenir a permis incontestablement d'enrichir le débat de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel. En moyenne, le Conseil rejette moins de 20% des demandes en intervention. Moins de 20% des demandes en intervention sont rejetées par le Conseil constitutionnel, ce qui place la juridiction constitutionnelle française comme l'une des plus ouvertes à la recevabilité de l'intervention. C'est d'autant plus remarquable que les demandes en intervention portent sur près du quart des affaires QPC, alors qu'en droit comparé, de telles demandes sont souvent peu fréquentes, plus rares en contentieux préjudiciel que dans l'hypothèse des recours en annulation. Les intervenants récurrents devant le Conseil constitutionnel, on le sait, ont tendance à être des associations spécialisées qui suivent avec attention tel ou tel domaine juridique. Alors, ces intervenants présentent-ils tous les gages de neutralité ? Pas au sens technique. Pas au sens technique, car précisément, par cette intervention, la personne intervenante devient partie à la procédure. Et cette caractéristique distingue techniquement l'intervention d'un autre type de contribution de tiers qui incarne peut-être mieux la posture de neutralité. C'est l'opinion issue de l'amicus curiae. Nommé par la Cour, il a précisément pour mandat de présenter un mémoire qui défend une position autre que celle des parties. Il s'agit en ce sens d'un intervenant désintéressé, chargé d'assister la Cour. Il est donc de son office d'observer une certaine neutralité. Toute l'autorité de son intervention provient du fait qu'il demeure à l'écart du litige. D'ailleurs, en droit comparé, les écrits introduits par les amis de la Cour ne font pas toujours partie des éléments du dossier que la juridiction doit impérativement prendre en compte. Ils ne sont d'ailleurs pas soumis au débat, même si, bien entendu, les parties y ont, dans la plupart des cas, accès. On ne peut donc que regretter que le recours à ce type d'analyse, ayant une valeur propre à éclairer sa réflexion, ne soit pas pratiqué par le Conseil constitutionnel français, même sous la forme édulcorée des auditions d'instruction, permises certes par les textes, mais en pratique inexistantes en QPC, est très rare dans le contrôle a priori. Car on ne trouvera qu'un modeste palliatif dans la pratique des observations spontanées, les fameuses portes étroites, cher Thomas, qui peuvent être librement prises en considération par le rapporteur et qui ne sortent pas du secret de l'instruction. Ce qui ne manque pas, bien sûr, de prolonger la question du point de vue de la neutralité. Transition facilitée, peut-être, François, pour l'intervention de Thomas Perrot. Merci à tous.